création
on air.
On air.
On air.
Creation on air.
Bonsoir. Des films en héritage comme Le Sacrifice, Nostalgia, Stalker, Le Miroir, André Roubleff, L'Enfance d'Ivan, Le Rouleau Compresseur et le Violon, Les Tueurs, Solaris. Celui pour qui l'art est une prière, Andrei Tarkovski, nous a aussi laissé un journal, réédité récemment aux éditions Philippe Ray, ainsi que Récits de jeunesse, couvrant la période 1960-1962. Andrei Tarkovski demeure une présence singulière dans le cinéma du XXe siècle. Déjà en 2011, Jean-Michel Frodon écrivait « Les films de Tarkovski sont des dragons, immenses et fascinants, mais pas à leur place dans ce monde. » ACR, Andrei Tarkovski ou Le son de la terre, par Charles de Brandt et Gilles Mardy-Rossian, un atelier de création radiophonique diffusé une première fois le 22 décembre 2002.
Il doit y avoir d'autres possibilités de travail avec le son qui permettraient d'être plus précis, plus fidèle au monde intérieur que nous essayons de recréer à l'écran. Et pas seulement au monde intérieur de l'artiste, mais à ce qui est intérieur au monde lui-même, à ce qui lui est essentiel et qui est indépendant de nous. Andrei Tarkovski.
Я век себе по росту подбирал, мы шли на юг, держали пыль над степью, бурьян чадил, кузнечик баловал, подковы трогал усом и пророчил, и гибелью грозил мне, как монах, судьбу свою к седлу я приторочил. Я и сейчас в грядущих временах, как мальчик, привстаю на стременах. Мне моего бессмертия довольно, чтоб кровь моя из века в век текла. За верный угол ровного тепла я жизнью заплатил бы своевольно, когда б ее летучая игла меня как нить по свету не вела.
Je me suis choisi un siècle à ma taille. Allant vers le midi, nos pas ont traversé la steppe. L'herbe sèche fumait. Le grillon, tout narquois, touchait de ses antennes les fers de mon cheval, prophétisait ma mort comme ferait un moine. Mon destin, je l'ai suspendu à ma selle, et je ne cesse pas d'être dans l'avenir. Comme un gosse, je me dresse sur les étriers. J'ai des ressources d'immortalité, assez pour que mon sang coule de siècle en siècle. Un bon coin de chaleur quiète, je le paierai volontiers de ma vie, si son aiguille preste et agile ne m'entraînait pas comme un fil à travers le monde.
Andrei, mon fils, ce ne sont pas des films que tu fais.
Thank you.
nous avons voulu donner à entendre le son de l'univers tarkovskien, le son de son âme, qui tend à ne faire plus qu'un avec la terre dans sa plénitude.
Aussitôt que l'idée du déluge se fut rassise, un lièvre s'arrêta dans les sinfons et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée. Oh, les pierres précieuses qui se cachaient, les fleurs qui regardaient déjà. Arthur Rimbaud, Après le déluge, Illumination.
Le déluge. La prière, la toile d'araignée, la révolte ou la quête spirituelle. Tout rapproche le poète du cinéaste. Comme Rimbaud et son soudain silence, les héros des films de Tarkovski décident, à un moment de leur vie, de se murer eux aussi dans le silence pour retrouver un sens à la parole, à l'art, à la vie.
Gleich werden wir dir was beibringen.
Wird schon.
Kannst ein bisschen die Beine bewegen?
Ну, то есть, оценка автора была такова. Я только что кончил в ГИК. Мне показалось, что я становлюсь режиссером.
Le point de vue était le suivant. Je venais de terminer mes études. J'avais l'impression que j'étais devenu metteur en scène.
И я был совершенно свободен, когда делал этот фильм.
J'étais tout à fait libre quand j'ai commencé à faire ce film.
То есть, это было какое-то очень счастливое время.
C'était un temps très heureux.
Когда я был очень ограничен, так сказать, интеллектуально, ментально.
Où j'étais assez limité mentalement, intellectuellement.
Но был ужасно наполнен, так сказать, чувствами.
Mais j'étais rempli de sentiments.
Ivan rêve qu'il vole. Un homme au début du film, Andrei Rublev, s'envole accroché à un ballon. Mais la Terre ne vole-t-elle pas dans le cosmos? C'est aussi l'image de l'élévation, de la vie de l'esprit, qui nous a fait voyager par le son à travers les 7 chefs-d'œuvre de Tarkovski.
Essentielle que j'ai eue de lui, c'était celle d'un enfant perdu dans la forêt. Naïf, jusqu'à un certain point, simple, honnête, qui se cherchait et qui cherchait des réponses à des choses plus grandes que lui, en sens que le monde qui l'entourait était évidemment, comme le monde soviétique maintenant, très très complexe. Et je crois qu'il n'y avait personne avec qui il pouvait parler et qui pouvait lui donner des réponses ou des aiguillages. Sauf qu'il a parlé de lui, il a parlé de ce qu'il, de sa foi et de sa recherche, de son manque de foi et de sa recherche. J'ai eu l'impression qu'il était vraiment très angoissé, très perdu, qu'il ne voyait pas vraiment l'issue. C'est comme quelquefois on voit la lumière au bout d'un tunnel. Il était encore dans le tunnel sans vraiment voir la lumière qui pointe et vers laquelle alors on peut se diriger avec certitude. J'ai trouvé que c'était un homme attrayant dans le sens qu'il était honnête. Il ne voulait pas de compromis. Il voulait trouver ce qui est vrai.
Il fait nuit. Autour de la flamme qui ronfle, les voyageurs dînent en silence, sans se presser. De la rivière monte une froide odeur de vase, des poissons clapotent tout près de la berge, et le bois mort dans le feu crépite en projetant des étincelles rouges qui s'envolent avec la fumée dans le ciel clair de la nuit. Tous essaient de ne pas regarder du côté du village. Là-bas, sur la colline, des premiers feux fument déjà et une faible brise apporte jusqu'aux barques un mélange discordant et envoûtant de tintements de cloches, de sons mystérieux et incompréhensibles et parfois de bruits de voix. Tous ont follement envie de se retourner pour regarder du côté du village au point d'en avoir mal à la nuque. Le village, c'est un autre monde qui palpite à mi-voix, qui parle, babille et murmure, qui allume ces feux mystérieux dont les lumières scintillent au-dessus des hautes branches des arbres qui s'étirent dans le ciel étoilé. Des grelots tintant entre les mains d'une femme nue qui pour la énième fois fait le tour de sa maison en courant pour la protéger de toutes les maladies bénignes ou mortelles et ses enfants tout nus qui tentent de la suivre en gloussant sans comprendre toute la gravité de leur mission qui crient et rient aux éclats en cet instant terriblement important et les feux crépitants que voit Andrei embrasent les visages souriants penchés sur les flammes oranges autour desquels des jeunes garçons et des jeunes filles en vêtements flottants se poursuivent en poussant des cris de joie. Et les corps nus et vigoureux des garçons et des filles s'enfonçant jusqu'aux genoux dans l'eau qui flamboie au clair de lune et le hennissement du cheval qui entre dans la rivière au grand galop et les rires et les cris. Et les grands gestes des bras blancs comme la craie dans l'air sombre de la nuit et les longues étreintes laborieuses des couples sur la terre féconde et bienfaisante qui s'étirent, entourés de gens amoureux de leurs chants labourés et plongés dans un silence solennel. Hors d'haleine, Andrei est emporté jusqu'à la rivière où il se heurte presque à une jeune femme aux cheveux dénoués et ruisselants, debout derrière des buissons tout près de l'eau, nue. Sans crainte, elle regarde Andrei avec étonnement, avec tendresse et avec une joie inattendue, pétrifiée, les bras croisés sur sa lourde et haute poitrine. Elle regarde Andrei et le voit s'approcher, les mains tendues. Il va effleurer son visage, Il va l'étreindre, tendrement, très fort. Sa bouche brûlante va trouver ses lèvres. Et elle va sentir le tissu grossier de sa robe. Son dos sera chatouillé par l'herbe rêche du printemps et les feuilles craquantes de l'automne dernier. Andrei la regarde. Il la voit venir à sa rencontre. Impudique. Les yeux écarquillés. Avec le clair de lune dans ses cheveux humides. Elle va s'approcher tout près. L'enlacer. Serrer contre lui son corps froid et frémissant. Elle va l'embrasser en gémissant de ses lèvres fraîches et douces. Et l'entraîner avec elle sur la terre bruissante qui sent la moisissure. Les champignons et l'herbe nouvelle. Il reste longtemps debout, ainsi, sur le qui-vive, à se regarder et à attendre. Puis Andrei se détourne et s'en va.
Comment vous dire?
То есть до тех пор, пока будет существовать человек,
aussi longtemps que l'homme existera,
человек будет стараться, не будет стараться, будет инстинктивно стремиться к творчеству.
Il aura une tendance tout à fait instinctive vers la création.
До тех пор, пока он будет ощущать, человек будет ощущать себя человеком, он будет
aussi longtemps que l'homme se sentira
homme, что-то.
Il essaiera de créer quelque chose.
Этим самым он напоминает, этим самым он просто связан каким-то образом с создателем.
C'est en cela qu'il a un lien avec son créateur en quelque sorte.
Потому что творчество, что такое творчество по существу?
La création, qu'est-ce que ça veut dire en fait la création?
Для чего существует искусство?
À quoi sert l'art?
Почему?
Pourquoi?
Хорошо это или плохо?
Est-ce bien, est-ce mal?
Конструктивно ли это? Или это абсолютно чистое искусство?
Est-ce constructif ou est-ce simplement de l'art?
Но ясно одно, что искусство – это молитва.
Mais il est clair que l'art, c'est une prière.
Это, этим все сказано.
Et cela veut tout dire.
При помощи искусства человек выражает свою надежду.
À travers l'art, l'homme exprime son espoir.
И все остальное не имеет никакого значения.
Et le reste n'a aucune importance.
И все, что не выражает надежды,
et tout ce qui n'exprime pas l'espoir,
и то, что не выражает, не строится на каком-то духовном уровне,
ce qui n'a pas de fondement spirituel,
не имеет никакого отношения к искусству.
N'a aucun rapport à l'art.
То татары по три раза за осень, то голод, то мор. А он все работает, 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 несет свой крест смиренно, не отчаивается. А молчит и терпит. Только Бога молит, чтоб сил хватило. Да разве не простит таким Всевышний темноты их? Сам ведь знаешь, не получается что-нибудь, или устал, намучился.
Est-ce qu'on peut considérer ce personnage comme mystique? Enfin, alors, par exemple, son médecin Schwarzenberg disait, on ne peut rien faire avec lui, il est mystique. Alors, on ne peut pas le soigner avec des médicaments normaux. Enfin, il ne veut pas prendre certains médicaments parce que là, bon, il croit en certaines choses. Alors que d'autres, les Hongrois, ont lu sur lui, son livre est sorti en français il y a quelques mois, ils disent au contraire que ce n'est pas un mystique.
Si vous définissez mystique comme quelqu'un qui est en face du mystère de la vie et qui ne veut pas essayer de le résoudre, intellectuellement, qui veut le résoudre dans une expérience de communion, mais je ne pense pas qu'il ait été un mystique dans le sens qu'ils sont chrétiens ou religieux du mot. Je vois que le monde, enfin, toute la complexité du monde était pour lui quelque chose qui ne pouvait pas être réduit à des formes rationnelles. Voilà. Je crois qu'il était à la recherche de quelque chose. Il avait un sentiment
de l'au-delà, de Dieu, du mystère, mais pas d'un mystère tellement concret qu'il puisse être un visionnaire, si vous voulez. Je ne pense pas qu'il ait été un chrétien dogmatique, dans le sens que, si vous lui avez posé des questions sur la Trinité, sur l'incarnation, d'un point de vue théologique, je crois que l'incarnation, le fait de la présence de Dieu, d'une façon incarnée, est certaine pour lui, mais pas sur le plan d'une théologie. Je ne pense pas qu'il aurait pu simplement dissocier un monde sans Dieu et un Dieu sans monde. Il les voyait interpénétrés. Il sentait qu'il y a un dynamisme intérieur dans le monde qui n'est pas simplement le monde qui se développe à sa façon.
Хотел не говорить никакой России.
Je n'ai jamais voulu rien dire à aucune des Russies.
Слушай, обычно говорят так. Я хотел сказать своему народу.
On dit, je voulais dire à mon peuple.
Или всему миру.
Ou je voulais dire au monde entier.
То есть я сразу превращаюсь в пророка.
Tout de suite, j'ai vraiment l'air d'un prophète.
Я никакой не пророк.
Je ne suis pas du tout prophète.
Я обыкновенный человек.
Je suis un homme.
Которому Господь дал возможность быть поэтом.
À qui Dieu a donné la possibilité d'être poète.
То есть молиться каким-то другим способом, чем мы молимся в наших храмах.
C'est-à-dire de prier d'une autre manière que l'on prie simplement dans nos cathédrales.
Больше ничего я по этому поводу не знаю.
Je ne peux rien dire d'autre à ce point de vue.
Tu sais, à force de manifester de la pitié, nous nous vidons. Peut-être est-ce vrai finalement. La souffrance confère à toute vie un aspect lugubre et suspect. Mais je refuse d'admettre. Oui, je refuse. Ce qui ne constitue pas une nécessité pour notre existence. Cela lui est-il nuisible pour autant ? Non. Ça n'est pas nuisible, non. Bien sûr que ça ne l'est pas. Tu te rappelles Tolstoï ? Ses tourments à propos de l'impossibilité d'aimer l'humanité en général. Combien de temps a passé depuis lors ? Je ne sais pourquoi je n'arrive pas à faire le compte. Aide-moi. Tiens, par exemple, je t'aime. Cependant, l'amour, c'est un sentiment qu'on peut éprouver, mais jamais expliquer. On peut expliquer une idée, mais ce qu'on aime, c'est... C'est ce qu'on risque de perdre, soi-même, une femme, la patrie. Jusqu'à aujourd'hui, l'humanité, la Terre, était tout bonnement inaccessible à l'amour. Tu comprends ce dont je parle, Snout ? Nous sommes si peu nombreux. Quelques milliards tout au plus, une poignée. Mais peut-être en fait ne sommes-nous ici que pour percevoir pour la première fois l'humanité, comme un motif d'amour. Tu ne crois pas ?
Solaris, Tarkovsky, Artemiev. Les sons de la Terre se mêlent à ceux de l'univers.
Snout, de thé ?
Thank you. notre régime.
Vous avez écrit quelques lignes sur Tarkovski. Vous avez parlé de lui comme d'un cinéaste essentiel. Donc tous ses films, ses livres, aujourd'hui, près de 15 ans après sa mort, son œuvre survit, ou combien? Mais quelles images, quelle expérience regardez-vous?
Je pense que ça fait partie de quelques créateurs qui demeurent exceptionnels. Je crois qu'on n'ose pas assez le dire. Il y a dans toute création une masse de gens qui travaillent et qui créent des choses. Et il y a par siècle ou par génération, mais ça demeure extrêmement rare, des êtres d'intelligence et d'inspiration qui élèvent leur art à un niveau où il devrait toujours être. Je pense que ce qui est très pénible dans notre époque, c'est de voir de plus en plus l'art se rabaisser pour arriver à une espèce de marché de la consommation et une espèce de trafic presque du métier de l'art pour devenir quelqu'un qui se fait remarquer et qui devient une célébrité richissime. Je crois que Tarkovski, c'est juste l'inverse. Et évidemment, on ne peut pas ne pas dire que dans un siècle qui allait en sens inverse, il a représenté une recherche dans tout ce qu'il a fait de ne jamais s'éloigner de la spiritualité.
Vous êtes proche de lui quand, dans votre livre de l'Ordre des Morts, vous parlez des éléments uniques au théâtre, enfin, vous parlez de la beauté de l'éphémère. Vous mettez de côté la beauté, vous la relativisez.
C'est une question de définition. Ça dépend où on va la chercher. La beauté, il va beaucoup la chercher dans la boue. Il va la chercher à travers des souvenirs d'enfance qui ne sont pas tous décantés, je veux dire. Je pense que ce que j'ai attaqué, c'est la fausse idée du beau, le faux culte du beau, comme le faux culte de la poésie. Alors que justement, je voulais, tiens beaucoup à dire ça, que Tarkovski est le fils d'un poète et qu'il a été un poète simplement dans sa génération. Il est passé de l'écrit à l'image. Mais aussi, ses dialogues sont tout à fait remarquables du point de vue de l'écriture. En tout cas, c'est certainement une œuvre de poète qu'il a fait, mais d'une vraie poésie qui passe par une réalité avec tout ce qu'elle comporte, et que je pense que la définition de la beauté n'est pas ce que les gens croient. Enfin, les gens croient que ce qui est beau, c'est ce qui n'est pas laid. Et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de beauté avec de l'horreur, et que c'est même souvent dans la descente, justement, dans les zones des marécages, qu'on rencontre la lumière.
Как твое имя, отчество и фамилия?
Меня зовут Жарыч Юрьевич Александрович.
Туда, Юрсон. Скажи, пожалуйста, откуда ты приехал?
La découverte d'une méthode en art est celle d'un homme qui découvre le don de la parole. On peut alors parler de la naissance d'une image, autrement dit d'une révélation. La création artistique est en fin de compte la forme même de l'existence humaine de l'artiste, son seul moyen d'expression. Andrei Tarkovski.
Я скажу три, и руки станут неподвижны. Внимание! Смотри на руки. Один, два, три! Громко и четко. Я могу говорить. Давай.
Я могу говорить.
après jour blanc, titre du scénario de son film autobiographique Le Miroir, Tarkovski pensa arrêter de faire des films. Mais le flot de lettres d'encouragement qu'il reçut de spectateurs russes lui fit renoncer à cette idée. Ils venaient d'exprimer leur âme au plus près.
Лайка!
Чего?
Le plus difficile et le plus important, avoir la foi. Car si tu as la foi, tout se réalise. Mais croire sincèrement est terriblement difficile. Rien n'est plus difficile. Croire sincèrement, passionnément, avec sérénité.
Là où je rejoins peut-être Tarkovski, c'est... Moi, j'ai une conception mystique du théâtre.
Joël Joanneau.
C'est-à-dire que pour moi, le seul lieu sacré, ce n'est pas l'église. C'en est un, mais je ne suis pas croyant. Mais le plateau de théâtre, pour moi, c'est une église. C'est un lieu de théâtre. Donc j'ai une conception mystique de ce qui doit se passer sur un plateau de théâtre. De même que, pourquoi ? Parce que j'ai une conception mystique du verbe. Et je le dis toujours, Dieu, pour moi, c'est une consonne avec une lettre minuscule et trois voyelles. J'ai cette conception-là de Dieu. Uniquement, c'est un mot. Et j'ai une conception mystique du verbe qui fait qu'au théâtre, le verbe est le centre, en tout cas dans le théâtre que j'essaye de pratiquer. Et j'apprends, parce que pour moi, tout est mot. J'ai l'impression que l'homme, grâce à Beckett, à tous ces gens-là que j'ai fréquentés au cours de mes voyages, que nous sommes des machines à mots et exclusivement des machines à mots. Et j'apprends dans le cahier de Tarkovski que pour lui, nous sommes des machines à images. C'est-à-dire que l'image est toujours là. Alors qu'au théâtre, l'image, je crois, est mauvaise conseillère. Enfin, pour moi, je me méfie beaucoup de l'image au théâtre. Parce que je pense que c'est le verbe et la pensée de Tarkovski qui doivent nous animer. Et simplement, la pensée d'un artiste qui croit encore que l'art peut changer, bouleverser, émouvoir. Que c'est, ça a à voir avec le sacré. Son cinéma, prenons Le Miroir, c'est ça, quoi. Enfin, c'est un voyage qu'on fait, je trouve, à partir de cette simple donnée qu'il donne, que c'est le seul artiste que j'ai vu pouvoir écrire ça, dans le journal, pouvoir dire, je vis des moments où ce qui est à l'intérieur de mon cerveau est exactement en phase, en fusion avec tout l'extérieur et le cosmos. On a un équivalent littéraire de ça, c'est La Recherche du Temps Perdu. Mais Le Miroir, c'est ça. C'est comment, à un moment donné, ce qui se passe à l'intérieur du cerveau artistique d'un homme est en fusion avec une étoffe, un rêve, la voix d'un enfant, un rire qu'il entend au lointain. c'est ce qui fait ces œuvres. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui, quand même. On n'a pas de cinéaste équivalent à Tarkovski aujourd'hui, il faut le dire.
De l'artisan, le niveau de la qualité perdu par tous, parce qu'il était devenu inutile et remplacé par l'apparence, l'illusion de la qualité. Je veux maintenir le niveau de la qualité comme Atlas qui soutenait la terre sur ses épaules. Il aurait bien pu la lâcher sous l'effet de la fatigue, mais il ne l'a pas lâchée, il a continué à la soutenir. C'est d'ailleurs le plus étonnant dans cette légende, non pas qu'il l'ait soutenue très longtemps, mais qu'il ne l'ait pas lâché alors qu'on l'avait trompé, qu'il ait continué à tenir.
J'étais un grand ami de Tarkovski, même un très grand ami. Je pouvais exiger de lui ce que personne ne pouvait exiger. Tous les cinéastes avaient peur de lui, car il était comme un miracle. Mais pour moi, c'était un collègue et un très grand artiste à qui je dois beaucoup. Je dirais même plus, il fut mon maître bien que j'étais de 15 ans son aîné.
Sergueï Parajanov.
Tarkovski a emporté avec lui une formule. Mais ne pensez pas que dans ses derniers films, il ait exprimé tout ce qu'il portait en lui. Quant à la formule, elle est restée énigmatique. Les critiques cinématographiques, qui sont souvent aveugles, n'y comprendront jamais rien. Seul quelqu'un de génial, un nouveau venu dans le cinéma et possédant la même formule que Tarkovski, pourra poursuivre sa réflexion. Ce n'est pas un institut, mais une personne qui doit apparaître. Une personne au niveau du talent de Tarkovski, pour déchiffrer cette formule. Que cet individu soit formé par l'école du cinéma de Moscou, ou par le destin, ou qu'il surgisse comme un miracle, il aura pour mission de poursuivre l'œuvre du maître. C'était un homme compliqué et mystérieux. Ne croyez pas que l'Institut vous donnera la formule, ni la possibilité de déchiffrer celle-ci. Le génie de Tarkovski consiste dans le fait qu'il n'a jamais voulu enseigner. Il ne voulait pas révéler sa réflexion. Il aurait pourtant été intéressant qu'il lègue la formule à son fils, qui est un garçon plein de talent, qui a hérité des gènes forts de son père et de son grand-père. Mais je me réjouis que Tarkovski n'ait pas enseigné à l'école de cinéma de Moscou. Ainsi, il n'y a pas de micro-Tarkovski. Ces micro-monstres que forme cette école. Quant à l'essoufflement du cinéma, c'est plutôt le monde entier qui est en train de s'essouffler. Et la Russie peut-être plus que les autres, et avec violence. La mort de Vysotsky, de Tarkovski, les départs de Loubimov, du danseur Glazounov,
de Rostropovitch et Vishnevskaya et de toute une pléiade d'autres artistes ont éparpillé les perles de la couronne. Il ne reste qu'une carcasse. Et on crée là-bas la glasnost et la perestroïka. Quand toutes les perles de la couronne sont tombées.
Увидеть эту бьюку. Потом, когда все стихнет, ползите назад, к заставе. Утром подберут.
Они нас не догонят.
Да что вы? Они ее боятся, как огня.
Кого?
Пусток означает подкрадываться во время охоты.
Пусток, ça veut dire se rapprocher très très doucement.
Furtivement.
Furtivement pendant la chasse.
Для меня это фильм.
Pour moi, ce film.
О человеке.
Ce film parle d'un homme.
Который, естественно, так сказать, терпит поражение.
Qui essuie une
практически.
Défaite, pratiquement.
Non, как идеалiste,
mais étant idéaliste,
остается создать, сказать, рыцарем во имя духовных ценностей.
Il reste une espèce de chevalier pour des raisons spirituelles.
Это что еще такое?
Свившись, как свиток, и всякая гора, и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие свободные скрылись в пещеры. И в ущелье гор, и говорят горам и камням, падите на нас, и скройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто сможет устоять?
Et je vis. Quand il ouvrit le sixième sceau, survint un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles tombèrent du ciel sur la terre comme un figuier secoué par grand vent jette ses figues. Le ciel fut retiré comme un volume qu'on enroule, et toute montagne, toute île, furent enlevées de leur lieu. Les rois de la terre, les grands, les chefs d'armée, les riches, les puissants, tout esclave et tout affranchi, se cachèrent dans les grottes et parmi les rochers des montagnes. Ils disent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin, de la face de celui qui siège sur le trône, et loin de la colère de l'agneau. » Car il est arrivé le grand jour de leur colère. Et qui donc peut encore tenir debout ?
Ressentit dans Stalker, peut-être pour la première fois, la nécessité de désigner avec précision et sans équivoque la valeur positive et centrale qui fait vivre l'homme. Tout s'épure jusqu'à ce simple élément, le seul sur lequel l'homme puisse compter dans son existence, sa capacité d'aimer. Mon devoir est de faire en sorte que celui qui voit mes films ressente le besoin d'aimer, de donner cet amour et qu'il perçoive l'appel de la beauté. Andrei Tarkovsky.
Je me languis beaucoup de mon chez-moi. Je m'ennuie à mourir de Lara, d'Andriushka et de mon chien, d'Acus. Décidément, aucun russe ne peut vivre ici avec cette nostalgie typiquement russe. La douleur d'être séparé dévorera leur vie. L'amour seul est capable de résister à cette destruction universelle. L'amour et la beauté. Je crois vraiment que seul l'amour peut sauver le monde.
La nostalgie est un sentiment entier, total.
То есть, может быть, человек, который испытывает ностальгию, по существу, находясь все время на своей родине, не расставаясь со своими близкими.
On peut éprouver la nostalgie en restant dans son pays et à côté de ses proches. C'est un sentiment.
В счастливом доме, счастливой семье.
Dans une maison heureuse avec.
Человек
une
может страдать от ностальгии.
Malgré tout cela, l'homme peut avoir la nostalgie, peut souffrir de nostalgie.
Потому что он будет чувствовать, что его душа не может распространиться в те пределы, в которые она стремится.
Parce qu'il sentira, par exemple, que son âme est limitée et que son âme ne peut pas se propager comme il l'aurait voulu.
Madre dolorosa, madre orgogliosa, madre ispirata, madre illuminata.
То есть, по существу, этот человек страдает от того, что он, скажем, не может привести в эту Италию своих близких.
En réalité, cet homme souffre, par exemple, du simple fait qu'il ne peut pas faire venir en Italie ses proches.
Он хотел бы своему сыну показать
Il voudrait montrer à son
эту красоту,
fils cette beauté,
вот эту Флоренцию,
cette superbe ville de Florence,
расширить его внутренний мир. Углубить его какую-то душу.
Développer son monde intérieur, creuser son âme un petit peu.
Il ne peut pas le faire.
Потому что жизнь устроена идиотами.
Parce que la vie, malheureusement, est faite et régie par des idiots.
И мы, так сказать, идиотами, которые почему-то вообразили, что они, их профессия устраивать жизнь другим.
Le monde est régi par des idiots qui sont convaincus de leur mission sur Terre, c'est-à-dire organiser la vie des autres.
Bisogna tornare alle basi principali della vita, senza sporcare l'acqua. Che razza di mondo è questo? Se è un pazzo che vi dice che dovete vergognarvi. Oh madre, oh madre, l'aria è quella cosa leggera che ti gira intorno alla testa e diventa più chiara quando ridi.
Clarissa, ça va mal là-bas. Une semaine après la publication de mon interview, les bruits qui couraient sur mes intentions supposées se sont transformés en une version officielle des faits. C'est la raison pour laquelle on retire ma femme. En ce moment, à Rome, tous mes films passent dans une salle. On a parlé ensemble de cinéma, spectateurs italiens et américains. Et moi, j'ai éprouvé un sentiment de honte à la pensée que des gens allaient au cinéma pour voir mes films. De honte, parce que ce que j'ai fait n'est pas du cinéma et qu'il ne faut pas aller voir mes films. Ce qu'il faut, c'est les vivre avec moi. Mais qui en est capable? Tel que c'est, j'ai honte.
Words, words, words.
For nothing. Allt är så bra. Allt är så bra. Det är lugnt. Var inte rädd. 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 Här händer det ingenting. Gråt inte. Gråt inte. Allt ska bli så bra. Älska mig.
Lorsqu'il ouvrit le septième sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept messagers debout devant Dieu. Il leur fut donné sept trompettes. Alors vint se tenir contre l'autel de l'encens un autre messager qui portait un encensoir d'or. Et on lui donna beaucoup d'encens à offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or devant le trône. Et par la main du messager monta devant Dieu la fumée de l'encens avec les prières des saints. Puis le messager prit l'encensoir, il le remplit des braises de l'autel de l'encens et jeta le feu sur la terre. Et ce furent des tonnerres et des voix et des éclairs et un tremblement de terre.
Apocalypse, Saint Jean.
Come in. soup. Ne vous distraxez. I made some ice cream, please. Alexander.
L'enfant essuie la sueur qui perle sur son front, soulève le seau avec peine et se dirige vers son arbre. Il s'arrête, rapproche le seau du tronc et verse l'eau. La terre desséchée l'absorbe avec avidité. L'enfant reprend le seau et se met à marcher dans la direction de sa maison qui n'est plus là. Il ne savait pas combien de temps encore il lui faudrait arroser cette souche, mais il était sûr qu'il ne laisserait pas passer un jour sans le faire. Qu'il continuerait à apporter de l'eau jusqu'à ce que l'arbre fleurisse. Son père le lui avait bien dit, l'arbre allait fleurir.
Et son fils retrouva alors la parole. Au commencement était le verbe. Pourquoi, papa ?
C'était l'atelier de création radiophonique.
Andrei Tarkovski. Ou le son de la terre.
Par Charles de Brandt et Gilles Mardi-Rossio. Texte tiré des écrits d'Andrei Tarkovski, lu par Emma Morin, Frédéric Bruyat, Guillaume Cantillon-Tramont et Martial Leminou.
Traduction, Luc Aubry.
Merci à Joël Joanneau et Michel Bonpoil pour les extraits du Visa Tarkovski, enregistrés par Patrick Marguerite.
Documentation, Institut international Andrei Tarkovski.
Les interviews d'Andrei Tarkovski nous ont aimablement été prêtées par Laurence Cosset.
Ordet. Varför det, pappa?
Au commencement était le verbe. Pourquoi, papa?
Ce documentaire est disponible en ligne et podcast. Demain, dans Création On Air, portrait de Bernard Bachet par Alexandre Bazin, puis inventaire de quelques instruments étranges comme l'orgue à gaz. Et dans quelques instants, ce sont les nuits de France Culture avec Philippe Garbi.